Vénérieux, comme
oui,
un homme de droite.
ça m'inquiète, moi.
Non, sur LFI, je pense que même on peut le qualifier aujourd'hui de narco-parti. Avec,
voilà, attention quand même.
Avec plusieurs, c'est pas, ça me fera un procès de plus.
Oui, mais à nous aussi, mais.
On en a bientôt d'ailleurs.
Et Le Havre est un narco-port, mais n'est pas LFI.
Ce que je voulais dire par là, c'est que chez LFI, il y a des élus qui sont condamnés soit pour usage de drogue, comme Andy Kerbat, soit qui se vantent d'être d'anciens petits dealers, comme oui. Louis Boyard. Il y a cette volonté de prôner le laxisme judiciaire, et donc ça va aussi aux trafiquants de drogue.
Il y a Sébastien Delogu qui fait des jeux de mots douteux sur la DZ Mafia.
Il y a également le fait que, vous savez que les détenus peuvent voter aujourd'hui, et qui arrive en premier dans le vote des détenus, à votre avis? Eh bien, LFI, évidemment. Et donc, on a vu aussi des trafiquants de drogue, là, qui étaient dans les célébrations des nouveaux maires. Donc, je pense qu'aujourd'hui,
alors
il y a suffisamment d'éléments.
C'est ça?
Comment?
C'était à Saint-Denis?
Il y a dans plusieurs mairies, des observateurs, des journalistes qui ont vu qu'il y a des gens ou des policiers qui rapportaient croiser des têtes connues du trafic. Donc je crois qu'en fait, c'est aujourd'hui avéré, c'est ce que je défendrais si je suis poursuivi pour ces propos. Je pense que LFI est un narco-parti.
Pour l'instant, on n'a pas de preuves, mais nous avons
des éléments qui se croisent quand même.
Oui.
Ça permettrait de plaider la bonne foi.
Voilà, je vous laisse quand même responsable de vos propos, s'il vous plaît, parce que on en a assez. Est-ce qu'on a encore des messages d'auditeurs de Radio Courtoisie, Richard de Sèze, pendant qu'il éternue en plus très fourbement.
Rien qui soit neuf par rapport à ce que nous avons déjà exprimé comme opinion.
Bon, alors, on avance effectivement parce que le temps nous presse un peu, mais néanmoins, ça a l'air de beaucoup passionner les auditeurs. La question ensuite, c'est, une fois qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur la légitimité, la nécessité, le comment, peut-être faut-il admettre, ou s'interroger en tout cas sur la durée de la remigration et sur le fait que, objectivement, nous ne la verrons pas, cette remigration. Enfin, ce sera
non.
Vous pensez?
Je suis pas d'accord.
Je suis plus parti sur un projet de 800 ans.
Il faut voir, 800 ans, c'est pas possible. Non, on peut commencer. Ouais, il faut commencer. Mais raison de plus, il faut commencer tout de suite. Mais encore une fois, la première étape de la remigration, c'est l'arrêt de toute immigration nouvelle.
Oui, mais on n'est pas.
Qu'on vienne pas dire que c'est impossible.
Il va falloir du temps pour le faire.
C'est impossible, il faut changer. Il faut changer l'ordre juridique.
Oui. Un gouvernement volontaire peut le faire. Les Trumpistes ont commencé à le faire. L'ont fait en expulsant quand même 1 million de clandestins. Donc c'est possible. Si on a la volonté, il n'y a aucun obstacle. Donc je ne vois pas pourquoi, si un gouvernement volontaire arrive en France, il ne va pas expulser et les clandestins. Déjà, une première chose de fait, et les criminels et délinquants étrangers, et ensuite, dans un troisième temps, les inactifs, les chômeurs, et puis les départs volontaires avec ceux qui se sentent plus en adéquation avec leur culture d'origine, dans leur pays d'origine.
Voilà.
Il y a plus qu'à.
Faut être progressif, et il faut bien comprendre que ce qui importe, c'est de changer la vision psychologique des choses, passer du point de vue de notre point de vue et non pas du point de vue de l'autre, premier élément. Et deuxième élément, changer le droit, ne serait-ce que pour permettre l'arrêt de l'immigration nouvelle. Oui. Si on ne change pas le droit, on n'arrête pas l'immigration nouvelle. Et M. Retailleau pourrait dire tout à fait, moi j'y peux rien, il y a le regroupement familial, j'y peux rien, il y a le droit d'asile, j'y peux rien, ça qu'il faut changer.
Alors ça veut dire que pour vous, dès 2027, on peut commencer si jamais on a un gouvernement qui arrive et qui est un peu déterminé.
Il faut une majorité. Un gouvernement qui est un peu déterminé, oui. Ouais.
Il faut quand même une majorité.
J'espère que ceux qui envisagent d'arriver en 2027 sont quand même conscients du niveau de difficulté qui les attend.
En tout cas, il faut qu'ils lisent « La remigration pour l'Europe de nos enfants ». Xavier Van Liert voulait revenir sur ce que j'ai dit.
Je voulais dire qu'on n'a pas du tout 800 ans, parce qu'en réalité, on a une fenêtre de tir de 20 ans.
Donc, c'est même beaucoup.
Ça ne passe pour dire ce... C'est ça, non?
20 ans, c'est même beaucoup.
Démographiquement, vous voulez dire.
C'est même beaucoup.
Oui, mais on disait ça aussi il y a 20 ans.
Ah oui, mais ça a changé. Il y a 20 ans... Il y avait 150 000 entrées à la belle époque de M. Jospin Il y avait 150 000 titres de séjour, même peut-être un peu moins à la belle époque de M. Jospin. Et aujourd'hui, l'époque on est à 380 000.
La fermeté jospinienne.
Voilà, la fermeté jospinienne avec M. Vaillant, ministre de l'Intérieur socialiste. Ouais. Aujourd'hui, on est à 380 000. Je parle que des titres de séjour.
Il nous faut un Jospin pour 2025.
Exactement.
Voilà, Jospin revient.
Jospin revient.
L'autre chose quand même, il y a un paramètre qu'on ne maîtrise pas et qui est dramatique en lui-même, c'est que malgré tout, ces phénomènes migratoires sont très liés à des différentiels de niveau de vie qui sont très importants, et se produit, ces migrations, mais aussi leur acceptabilité, tient quand même beaucoup au fait que nous sommes des pays prospères qui peuvent se payer le luxe d'entretenir, d'acheter la paix civile avec beaucoup de moyens. Je pense qu'on arrive au bout de cette capacité et que les arbitrages vont devenir de plus en plus douloureux. À mesure que les Français s'appauvrissent, ils ont quand même aussi moins tendance à accepter que l'ensemble que de grosses parts du budget de la nation soit dirigé vers ces populations. Donc les bascules quand même d'idées peuvent être accélérées par d'autres phénomènes que les débats qu'on peut avoir autour d'une table ou les questions sémantiques ou les arguments qu'on peut trouver. La situation peut aussi changer radicalement.
Donc et Xavier nous propose le grand appauvrissement pour éviter le grand remplacement.
Non mais je ne propose pas le grand appauvrissement.
Je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord, il n'y a pas de souci.
Il est déjà là, oui, oui. Le grand appauvrissement.
C'est vrai que ça peut être contraint, ça peut être des mesures contraintes. De toute façon, quand on ne pourra plus payer les aides sociales, il va y avoir des mécaniques. Voilà.
C'est exactement ce qui s'est passé en Espagne entre 2008 et 2012. C'est vraiment pour moi un élément, je le récite à chaque émission sur l'immigration, c'est vraiment vital de l'avoir en tête parce que ça a marché de manière accidentelle. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas que ça allait produire ça, mais ils avaient tellement plus d'argent qu'ils ont coupé les aides sociales. Ça a provoqué immédiatement un solde migratoire négatif. Plus d'immigrés qui partent que d'immigrés qui viennent. Ils ne l'ont pas fait exprès, et ils ont rétabli les aides en 2012, ces braves gens. Mais, bon,
mais c'est aussi dans la perception, c'est-à-dire qu'on accepte l'immigration parce qu'on pense que nous sommes, dans notre imaginaire collectif, nous sommes toujours plus riches que nous le sommes, et nous avons ce devoir un peu chrétien dévoyé de secourir des plus pauvres. Ce n'est plus le cas. Nous ne sommes plus dans cette situation-là, en réalité. Lorsqu'on va le réaliser, la perception certainement changera. Ça pour donner un peu d'espoir quand même.
Ouais, alors, là où il y a un peu moins d'espoir, où il faut quand même aussi avoir une certaine lucidité, c'est qu'il y a quand même tout un tas de gens qui ne partiront peut-être plus. Moi, je me souviens avoir fait des reportages à Roubaix, à Grenoble, il y a plus de 10 ans déjà. Hein. C'était déjà insupportable. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas y aller. Déjà, si on était blanc, c'était extrêmement dangereux. Grenoble, c'est la première fois où je me suis enfui avec la police face aux racailles. J'étais sidéré. Ça ne m'était jamais arrivé. Et la police qui m'accompagnait pour faire mon reportage, enfin j'accompagnais la police dans le reportage plutôt, on s'est barré. Quoi. Barré, c'était stupéfiant, c'est le cas de le dire. beaucoup de ces gens ont la nationalité française et leurs enfants sont nés en France. Et pourtant, ils ne sont pas plus français que ça.
Ils ne sont pas.
Comment remigrer
ces gens ? Ils n'ont pas la nationalité effective.
Mais comment les remigrer d'un point de vue légal ?
Garder les liens avec.
Non, mais je parle d'un point de vue légal. Parce que aucun pays ne va les accepter.
Alors d'un point de vue légal, il faut envisager, dans certains cas, des processus de déchéance de la nationalité. Voilà. Pour les délinquants hostiles, pour les populations hostiles, ce qui n'est qu'une minorité quand même, il faut envisager la déchéance de nationalité. Mais ce n'est pas la première chose à faire. Quand on décline tout ce qu'il y a à faire avant, à savoir l'arrêt de toute immigration nouvelle, le renvoi des clandestins, le renvoi des délinquants, le renvoi des chômeurs et des assistants sociaux... Bon, mais après,
c'est pour ça que je vous parle
la dernière étape. Quoi.
C'est pour
mais
ça
c'est
que je vous parle
étape
de siècle, moi, parce que ces gens forment de vraies enclaves, des enclaves qui grossissent au lieu d'être des enclaves qui rétrécissent.
Il ne faut pas aussi sous-estimer le fait que si la justice se durcit, si les aides sociales sont moins distribuées, tout simplement, il va y avoir une évaluation de la situation qui va différer pour ces personnes-là et elles vont peut-être trouver un avantage à partir ailleurs d'elles-mêmes en fait.
Ou même avoir une fécondité moins élevée.
Aussi, de toute façon, les taux de fécondité ont tendance à s'aligner. Hein.
Oui. Mais seulement, il y a un décalage.
Il y a un décalage mortel pour...
Mais en tout cas, il y a un élément qui est absolument crucial, c'est que tout ce qui est fait contre l'immigration, il y a une petite chose qui existent déjà. Il y a déjà des lois qui sont parfois activées, il y a déjà des juges qui font parfois un bon boulot. Tout cela est tu. Il suffit qu'on fasse déjà la promotion de toutes les nouvelles mesures pour que y ait, la balance coût-bénéfice soit déjà en faveur de la remigration. C'est parce que le système médiatique tait systématiquement tout ce qui ne va pas et que le système médiatique promeut systématiquement tous ceux qui veulent qu'il y ait plus d'immigrés qu'on se retrouve avec cette espèce à la fois de perception de notre culpabilité, de notre fausse évaluation de nos moyens et de l'absolue innocuité de ceux qui arrivent.
Et le système budgétaire, pensez que l'association Utopia 56, qui fait des occupations pour imposer la régularisation de clandestins, a reçu une subvention de la Banque de France.
Nous l'avons dénoncé sur Radio Courtoisie.
Tentative d'attentat aquatique sur le plateau de Radio Courtoisie, où Jean-Yves a voulu jeter un verre d'eau.
Tout ça parce que je pose des questions
gênantes.
Attention à l'électrocution, là.
Oui. Un auditeur de Radio Courtoisie nous dit, il y a un point essentiel, c'est que tant que nous sommes dans l'Union européenne, nos gouvernants sont pieds et poings liés. Sans le Frexit, on ne peut rien faire.
Honnêtement, je conseille à cet auditeur de regarder ce qui s'est passé en Angleterre avec le Brexit. Au moment du Brexit, il rentrait 600 000 étrangers entrées brutes par an, 300 000 entrées nettes. Après le Brexit, 1 200 000 entrées brutes, 600 000 entrées nettes, donc un doublement.
Et c'est surtout la nature de l'immigration qui a changé en Grande-Bretagne, puisque l'immigration européenne est quasi disparue, voire même s'est inversée, et qu'on a eu une immigration quasiment exclusivement non européenne. Donc c'est encore plus grave que ça. Donc c'est sûr que dans le cadre d'une solution qui est vers le Frexit, il faut non seulement qu'il y ait un Frexit, puis après il faut quelqu'un qui tienne la barre après migratoire derrière, donc ça fait quand même deux miracles.
C'est le juge exit, la vraie question, parce qu'en Angleterre, ils ont fait effectivement le Frexit, ils n'ont pas fait le juge exit. Et donc ils sont restés dans la même...
Il y a plus que ça, il y a quand même une volonté de politique de faire venir un maximum d'immigrés. Boris Johnson a été le pire dans tout ça. Pas eu que les juges.
Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure d'antériorité, d'une part, quelqu'un nous dit supprimer les aides sociales pour lutter contre l'invasion migratoire. C'était le programme de François Fillon.
Oui, c'est le programme de tout le monde.
Oui. Mais on ne peut pas reprocher à François Fillon de ne pas l'avoir mis en œuvre.
Voilà, et ça vous parlera, Jean-Yves. En 1963, un numéro spécial d'Europe Action sur l'immigration, depuis notre famille de pensée, n'a pas inventé d'autres solutions. Donc déjà en 63, vous vous souvenez de...
Moi je me souviens pas mais j'ai retrouvé effectivement un éditorial, je crois, d'Europe Action de 63-64 qui pourrait être publié aujourd'hui tel quel, qui n'a pas vieilli. Il y a peut-être un mot qu'il faudrait remplacer par un autre pour être un peu plus convenable.
Millier par million peut-être.
Mais il y avait effectivement, il y a une couverture je crois d'Europe Action. Me semble, dans les années 60, ils sont des centaines de milliers, bientôt ils seront 1 million. C'était évidemment de l'exagération à l'époque.
Ah oui, ça n'a peut-être pas changé, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment d'autre solution. C'est-à-dire qu'à part accepter l'état de fait, la seule vraie solution, c'est l'inversion, comme on disait jadis. Alors, il y a peut-être un autre point. Donc, en 2025, Pierre Brochand, donc, qui est l'ancien patron de la DGSE, qui a donné, à mon avis, peut-être l'entretien le plus important de toute l'année 2025.
Pour moi, la meilleure plume, c'est Pierre Brochand sur l'analyse de la situation est exceptionnelle.
Oui. Et en revanche, il est loin d'être optimiste. Et il nous parle...
Alors lui n'exclut pas le recours à la force.
Ah ben non, au contraire.
Lui met le recours à la force parmi les moyens.
C'est ça. Il parle d'un radicalisme sans remords pour éviter le pire.
Oui.
Et pour éviter notamment une guerre intercommunautaire, ce qui est très intéressant parce qu'il ne parle pas de guerre civile. Et la nuance compte beaucoup, parce que pour être une guerre civile, il faut appartenir au même groupe. Et là, on distingue bien des groupes.
Avec les antifas, on a nos chances, mais...
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Mais c'est la guerre intracommunautaire, c'est autre chose, effectivement.
Je pense qu'il y aura une guerre entre ressortissants d'origine africaine et ressortissants d'origine arabe. Et on voit d'ailleurs sur les élections là, des maires qui viennent de se passer hier, qu'il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais pourquoi il y a énormément de maires d'origine africaine et très peu de maires d'origine arabe ?» Et on sent déjà un début de tension entre les deux. Donc ça va se produire.
Alors à cela aussi, il faut ajouter les communautés juives, notamment je pense à Sarcelles.
Je fais une fixette sur Sarcelles.
Si, si, il y en a encore. Oui, il y en a encore, mais si j'étais juif à Sarcelles...
Il y a une communauté à Cerro-Calderen aussi, je crois.
Exactement, les Cerro-Calderens, qui sont des chrétiens d'Orient. Et qui, alors là, pour le coup, j'en ai connu quand j'étais SOS chrétien d'Orient, les malheureux Cerro-Calderens de Sarcelles, qui vous disent, mais en fait, on est en train de revivre ce qu'on a fui. C'est horrible. C'est
ils recroisent leur bourreau, des fois. Ils racontent qu'il y a des anecdotes comme ça, des gens qui ont été torturés, qui retrouvent leur bourreau dans le métro de Paris.
Ouais.
Voilà,
Avec le statut d'asile politique, probablement,
bien sûr.
délivré par la Cour nationale du droit d'asile ou l'OFPRA. Voilà.
Mais alors, il faut peut-être aussi donc, envisager, en attendant... l'apothéose, l'épiphanie remigratoire, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? Moi, avant de diriger Radio Courtoisie, et j'avais contacté Damien Rieu pour ça d'ailleurs, pour lui proposer mes idées sordides, j'avais en tête de créer un lobby, un groupe de pression communautariste blanc. Parce que ça me semblait être la chose décisive pour avoir 20 ans d'avance, là où je trouve que nos politiques ont souvent 20 ans de retard. C'est-à-dire, on a encore des politiques qui vous parlent, mais bêtement d'assimilation
absolument.
On dit, abruti, mais où tu crois que tu es quoi.
Mais c'est confortable.
C'est un peu calmé là, je trouve.
Ça a disparu quand même.
Je l'entends moins quand même. On sent qu'il y a plus grand monde qui y croit.
Non, ils n'y croient pas, mais c'est facile. Puisque ça permet de dire, on va régler le problème, on va les assimiler, on n'a pas fait assez d'efforts. Mais c'est vrai que ça devient de moins en moins crédible.
Un peu disparu, voilà.
Alors la question, comment avoir 20 ans d'avance au lieu d'avoir 20 ans de retard?
Bah, la communautarisation, oui. Il y a certains.
Mais en fait, la communautarisation, elle existe déjà. Ça s'appelle s'appelle le prix de l'immobilier. Tout simplement, il suffit de voir ce qui est cher aujourd'hui, quels sont les quartiers chers, quels sont les quartiers pas chers, quels sont les quartiers que les gens fuient. Donc ça existe.
Ça se fait aussi par les déplacements entiers de population, c'est-à-dire toute la population de banlieue qui est maintenant dans ce qu'on appelle le périurbain. Mm-hmm. Et puis le vote TGV. Pour les gens, dont je fais partie d'ailleurs, qui ont décidé de quitter Paris et sa région parisienne en s'installant dans une ville à une heure de TGV si on doit venir travailler à Paris.
C'est tout à fait un bon argument aussi.
Ça permettra peut-être la transition sur les municipales, d'où la différence de vote entre les métropoles et la France périphérique.
Oui, qui se met en place tout doucement. Xavier,
C'est effectivement un très bon argument versé au dossier. Beaucoup de gens qui pensent que ce serait indigne de transvaser ces populations dans leur pays d'origine ne sont absolument pas choqués de voir des centaines de milliers de Français chassés de leur propre ville, de leur propre quartier, car il y a effectivement des migrations internes à la France, et là, sous la contrainte, très très clairement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de villes où il n'est plus possible pour les Français de vivre...
Il manque pour les réfugiés, ces réfugiés de l'intérieur. Je pense que si j'étais M. Stéra ou M. Bolloré, je ferais un fonds pour évacuer ces réfugiés de l'intérieur, des gens qui sont piégés parce qu'ils sont propriétaires de petits pavillons ou d'appartements dans des zones sinistrées. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus partir parce qu'ils ne peuvent plus vendre. Des gens sont coincés dans des enfers là-bas, personne n'en parle. Et ça mérite et la lumière sur eux et de l'aide, mais ça nécessite des fonds astronomiques, à pure perte. Hein. Mais je pense qu'il faut les sortir de là.
C'est un geste de solidarité, pour le coup, une solidarité envers
nous. Il manque cette ONG.
Eh ben, c'est une superbe idée, ça.
Il n'y a pas des idées,
on manque pas. Il faut qu'on vous invite souvent,
Damien Rieu. C'est pas les idées qui manquent, c'est
l'argent. C'est un fonds de 200 milliards d'euros.
Alors, on remercie cet auditeur qui nous envoie la couverture d'Europe Action. Je ne pense pas qu'on la voit à l'écran, mais voilà, c'est effectivement en 64... Ils seront bientôt 1 million.
Ah, c'était des extrémistes.
Mais en 64, c'était peut-être vrai. Alors, on va passer au sujet suivant maintenant, mais on reste un petit peu dans cette même lignée. Donc nous allons faire le bilan des élections municipales et on revient juste après un petit spot.
Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Restons courtois. Pierre-Alexandre Bouclet.
Oui, Pierre-Alexandre Bouclet, pour vous servir avec donc le petit groupe de la réinformation, avec Xavier Van Leer, Jean-Yves Le Gallou, Damien Rieu et Richard Decaize. Et avant de passer donc à ce bilan des élections municipales, on va vous lire quelques messages d'auditeurs, parce que vous le savez, Radio Courtoisie ne vit pas de la publicité ni des subventions, elle vit du soutien de ses auditeurs militants. Et alors je commence par quelque chose d'extrêmement touchant, mais malheureusement, ça fait partie aussi du quotidien de Radio Courtoisie. C'est pour ça qu'on appelle tous ceux qui ne donnent pas à le faire. C'est un auditeur de Gondrin qui nous dit qu'il est profondément attristé de devoir nous annoncer le décès de son épouse. Et il nous dit « Nous gardons le souvenir de Jean Ferré, de Serge de Beckett et de bien d'autres patrons d'émission. Nos premières rencontres avec notre chère radio remontent en effet à Radio Solidarité et nous participions régulièrement aux fêtes et dîners de Radio Courtoisie du temps que nous vivions en région parisienne. Mais le rappel à Dieu de mon épouse et la nouvelle organisation de ma vie du fait de mon grand âge me conduisent à vous demander de mettre fin à réception de cette lettre au prélèvement trimestriel de 30 euros par lequel nous participions à la vie de la radio. » Cher monsieur, déjà un immense merci pour tout votre soutien. Toutes nos condoléances pardon, également pour le décès de votre épouse. Et j'espère que vous pourrez continuer néanmoins à nous écouter régulièrement. Et merci à vous deux pour ce soutien immense dans la durée depuis 1985. J'espère que nous pourrons vous accompagner encore longtemps. Nous avons aussi un auditeur de Paris, dans le 17e, qui envoie 70 euros, qui nous dit « C'est avec joie que je vous adresse ma première cotisation pour l'année 2026. J'aurais aimé le faire plus tôt, mais j'ai dû faire face à des frais imprévus. Ma retraite n'est pas très forte. C'est bien peu par rapport au mal que se donne votre équipe, mais j'espère en envoyer d'autres si Dieu le permet. Depuis le meurtre de Quentin, ma haine pour l'extrême-gauche et le mépris que j'éprouve pour Macron sont une super motivation pour contribuer à l'effort de guerre pour relever la patrie. La radio est pour moi, qui suis seul, une véritable famille avec ma paroisse. Mille merci à toute l'équipe et veuillez dire à Monsieur De Cèze que je partage son immense mépris pour le président de Pacotille que nous avons. » Eh bien écoutez, il est à côté de moi, donc c'est transmis. Merci cher monsieur.
Une auditrice de Sèvres dans les Hauts-de-Seine envoie 150 euros. Le 20 mars, fête de Saint-Joseph, patron des travailleurs, c'est de bon augure pour vous. Merci de votre pugnacité, même si vous bousculez nos vieilles habitudes.
Eh bien, merci à vous, chère madame. 150 euros, c'est un très joli don. Et nous essayons de bousculer les vieilles habitudes, tout simplement parce que nous avons l'obligation de faire vivre Radio Courtoisie et de la projeter dans les enjeux nouveaux. Et voilà, donc nous essayons de changer pour que rien ne change, pour que vous puissiez garder une radio libre, indépendante, qui défend vos idées et vos valeurs. Nous remercions aussi un couple d'auditeurs de Troyes dans l'Aube qui envoie 5 euros et qui nous dit « C'est un très modeste geste à une grande et libre radio qui nous donne l'espoir et qui reste l'unique média digne des valeurs et de l'histoire de notre grande et immortelle France. J'eusse aimé abonder Radio Courtoisie par une somme plus forte. Hélas, je suis un petit retraité qui a tant fait pour l'épanouissement de notre joyau national, la langue française. » Ben, cher monsieur, non, je vous remercie, mais infiniment, parce que ce don de 5 euros, il est vital pour nous. Et nous allons bientôt publier les chiffres d'une audience médiamétrie que nous avons demandé et pour savoir un peu où nous en sommes, qui nous donne 1 million d'auditeurs par semaine sur la bande FM. C'est tout à fait considérable. Et si chacun de ces auditeurs voulait donner ne serait-ce qu'un seul euro, eh bien, nous serions vraiment à l'abri du besoin pour des années et des années. Nous n'aurions plus besoin de demander de l'argent sans arrêt. Si simplement ceux qui écoutent sans donner voulaient bien se mobiliser pour 5 euros, et même pour un seul euro, ils feraient un geste important pour défendre leurs idées. Voilà, il faut qu'ils le sachent, s'il y en a qui nous écoutent ce soir, un seul euro, par exemple un euro par mois ou même un euro par an, faites-le et vous prendrez votre place dans cette phalange des auditeurs militants pour tous ceux qui envoient 150, 70, etc. ou beaucoup plus. Voilà, c'est vraiment important parce que nous défendons vos idées, nous nous exposons, je suis désolé d'avoir à le dire, mais à des violences, nous nous exposons à des procès. Alors voilà, le minimum, c'est peut-être parfois aussi de défendre ses propres idées. Et si vous aimez notre radio et que vous l'écoutez, un seul euro par an, ce serait déjà génial. Merci beaucoup. Nous revenons maintenant à notre sujet. Donc les élections municipales, second tour, le bilan. Nous avions 1526 communes qui organisaient donc un second tour ce dimanche pour élire leur maire. Alors, Manuel Bompard pour LFI a salué une percée insoumise. Olivier Faure, pour le PS, a applaudi la victoire de son parti. Alors, à Marseille, à Paris, à Lille. Jordan Bardella, pour le RN, a pointé la montée en puissance du RN dans les petites et moyennes villes. Et la droite s'est vantée, après ses belles prises à Besançon, à Brest, à Limoges ou à Clermont-Ferrand. Alors, conclusion, tout le monde est content. C'est magnifique. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il n'y a pas d'injustice. C'est comme à cette émission de Jacques Martin.
L'école des fans.
L'école des fans, tout le monde a 10 sur 10. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire vous-même. Est-ce que vous êtes content, Jean-Yves Le Gallou, du résultat des élections? Et quelles leçons est-ce que vous en tirez?
Schématiquement, je pense que LFI a raison d'être content dans les grandes villes et que le RN a raison d'être content dans les villes moyennes et les petites villes et certaines grandes villes, mais assez peu en vérité. Il y a un partage territorial. Il y a un partage territorial entre les grandes métropoles qui virent LFI ou qui restent à gauche et... Les villes petites ou moyennes où il y a incontestablement une forte poussée RN puisqu'il y a maintenant 60 villes ou 65 villes RN et qu'il y a des milliers de conseils municipaux. Donc
il y a 3000 conseillers municipaux.
Il y a vraiment une poussée qui aurait peut-être plus importante encore parce qu'il y a des endroits où il y a des villes qu'on met dans le... actuellement dans le patrimoine RN, où le RN n'y est absolument pour rien. Je pense à Vierzon, par exemple, qui est une ville quand même de 35 000 habitants, qui a basculé dans une liste d'union des droites qui commence au Modem et qui finit à Reconquête en passant par LR, le RN, etc., et qui s'est fait totalement en dehors des partis. C'est un exemple assez intéressant. Une union à la base, et s'il y avait eu les partis, si les partis s'en étaient mêlés, ça n'aurait pas marché. Parce qu'il y aurait eu deux listes qui se seraient affrontées, et au deuxième tour, la gauche l'aurait encore emporté. Voilà, mais ça rentre un peu dans le basculement général. Donc c'est tout de même assez satisfaisant. Oui. Ce qui est satisfaisant aussi, c'est que la campagne menée par la gauche et l'extrême gauche, parfois reprise d'ailleurs par le RN, sur les brebis galeuses, n'a eu absolument aucun effet sur les électeurs.
Oui.
Voilà, ça a de l'effet sur les oligarques émasculés, mais ça n'a pas d'effet sur les Oh, j'espère sur qu'on n'aura pas de procès, ils ne se reconnaîtront pas. Oui. Bon, ça n'a pas d'effet sur les électeurs. Voilà.
Xavier Van Lierde.
Tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a une sorte de partition électorale qui devient une partition territoriale. J'ai un peu le sentiment, mais alors, j'ai peut-être une vision un peu déformée par les résultats dans le Vaucluse, qui sont quand même assez spectaculaires. Enfin, en tout cas, moi, j'habite une ville qui a basculé dans le... Carpentras, pour ne pas la nommer, qui a basculé dans l'escarcelle RN. Mais si je sors de la ville par une des portes, je tombe sur une autre commune qui a basculé dans l'escarcelle RN. Et si je prends l'autre porte de l'autre côté, c'est pareil, la commune a également basculé dans l'escarcelle RN. Et sur la route d'Orange, où malheureusement il y avait des bisbilles dans le camp patriote, il y en a encore une autre et une autre à côté. Donc en fait, je crois qu'il y a 20% des habitants du Vaucluse qui désormais vivent dans une ville Rassemblement National. Et on n'est pas passé loin de beaucoup plus, puisque Cavaillon, je crois qu'ils ont perdu avec 57 voix, et Apt, 17 voix. Donc, c'est assez symptomatique de la façon dont ce département, assez durement frappé par l'immigration, génère des anticorps, en tout cas dans les petits bourgs et les villes moyennes, ce qui n'est pas le cas dans les grandes. Donc, on voit s'ébaucher quand même en modèle réduit, ce qui se passe au niveau national. Et je voudrais rassurer Jean-Yves Le Gallou, les quelques électeurs RN que je peux connaître, et j'en connais forcément plein, parce qu'il se trouve que dans cette ville, désormais, une personne sur deux, minimum, a voté pour le Rassemblement National, et, allez, je dirais à la louche, un peu plus de 3 sur 5 quand ils sont français autochtones, si vous voulez. Donc, c'est quand même considérable. Et la motivation principale de leur vote, c'est l'espoir d'une remigration à l'échelle de leur propre commune. Ce qui est fascinant dans cette affaire, c'est qu'on voit que... comment dirais-je? Je ne voudrais pas mettre les nouveaux élus du RN dans l'embarras, mais plus on se rapproche de la base et on finit l'électeur, plus les gens sont, soi-disant, radicaux.
Radical, c'est pas un terme horrible. Hein. C'est être à la racine des choses.
Oui, ils sont à la racine de la France et c'est aussi à la racine pour la vigueur des solutions espérées. J'ai un peu peur qu'ils soient déçus parce qu'à l'échelle d'une ville, c'est compliqué. Mais en tout cas, la motivation est bien celle-là. Conserver,
c'est un début.
Conserver son mode de vie. Voilà.
Heureusement que le RN ne surveille pas les postes de ses électeurs parce qu'ils seraient obligés de décompter leur vote.
Ah, c'est vrai. Alors, j'ajoute d'ailleurs qu'à Carpentras, la tête de liste initiale avait été dirais-je, chassé, éjecté, oui.
A perdu son investiture.
Oui, oui, c'est poli. Merci de le dire plus poliment que moi. Mais s'est retrouvé finalement à partager la liesse de la victoire, je crois, c'est ça ?
Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à Carpentras, il y avait initialement cinq listes, deux listes de gauche et trois listes, une RN et deux étiquetées par le ministère de l'Intérieur comme divers extrême droite.
Je ne connaissais pas cette définition.
C'est divers extrême droite aussi, d'accord, d'après le ministère de l'Intérieur, oui.
Voilà. Et donc, il y en a eu trois parce que, en réalité, l'une de ces listes divers extrême droite était l'ancienne liste RN qui avait perdu l'investiture à cause d'un tweet un peu malheureux, vigoureux, dans l'expression de la part de la tête de liste, qui est par ailleurs un notable local, extrêmement sympathique, mais
sanguin.
La campagne ayant avancé et les trois ayant obtenu des scores substantiels, eh bien, ils ont décidé de jouer le jeu de l'union entre Rassemblement National et divers extrêmes droites, dont celui qui avait perdu l'investiture, ce qui prouve sa grandeur d'âme. Mais c'est assez rafraîchissant de voir que, à la base, là aussi, l'union se faisait. Il était accueilli avec extrêmement chaleureusement par ceux-là même qui avaient fait du coup campagne pour une seconde liste Rassemblement National. Enfin,
c'est complètement encourageant.
Puisque ce gars a perdu son investiture, mais l'ensemble des gens qui étaient sur sa liste initiale, ils sont restés, si vous voulez.
Oui, ils lui ont redonné finalement son investiture. Ouais. Alors,
voilà.
Voilà l'affront de l'affaire de Carpentras, une deuxième fois lavé.
Oui.
Ouais. Eh bien, puisque vous avez la parole, Damien Rieu, gardez-la. Comment est-ce que vous analysez ce second tour des municipales?
Eh bien, c'est l'enterrement de la gauche blanche socialiste, la gauche blanche communiste, à Vénissieux. Hein, c'est très symbolique de voir cette mère, là, Michel Picard, en pleurs, remplacée par la stratégie Gaza Crousti de LFI, donc cette stratégie qui vise à mobiliser les électeurs musulmans ou d'origine immigrée. Je crois vraiment que ces municipales, c'est la grande leçon, c'est l'ethnicisation du vote. Pour la première fois, nous avons des communautés d'origine qui élisent des maires de la même origine. Donc vote ethnique, maire ethnique. Et je crois qu'on ne l'avait jamais vu jusqu'à présent à ce point-là. Il y avait parfois sur les listes des conseillers municipaux qui rabattaient la communauté. Et là, ils ont décidé de prendre le pouvoir. Et je leur dis bravo, parce qu'il est assez insupportable de voir ces caciques socialistes, et même encore à LFI, hein, si vous regardez les cadres à LFI, c'est très très blanc. C'est insupportable de voir ces socialistes, ces communistes et ces LFI prendre la place et ne pas représenter l'électorat qui vote à 90% pour eux. C'est un électorat issu de l'immigration. Il faut que ces gens-là prennent la place et chassent ces cadres qui sont blancs.
Les usurpateurs, oui.
Voilà, ces usurpateurs qui les traitent comme de la chair à voter. Donc, ouais, grand bravo à eux
Qui exercent leur patriarcat blanc cisgenre.
Enfin, oui, non, mais c'est une forme de colonialisme électoral, c'est-à-dire qu'ils les estiment incapables de se gouverner, de se prendre en charge eux-mêmes, et donc il y a, ça fait dans le 93, ça faisait 50 ans que les blancs socialistes communistes vivaient sur cet électorat-là, sans leur laisser la place. Ils ont pris la place, donc bravo à eux. Première chose. Deuxième chose, alors c'est à étudier de près, je vais le faire ce soir, mais il me semble qu'il y a eu donc beaucoup de cas de maires de la diversité qui remplacent des maires natifs, mais l'inverse, n'a pas eu lieu. C'est-à-dire, on n'a pas un maire d'origine non immigrée qui a pris la place d'un maire qui était déjà immigré. Et je pense que ça n'arrivera plus. Ce sera probablement entre communautés qu'il y aura des remplacements, des changements par concurrence de diaspora. Mais voilà, je vais faire un tableau ce soir, là, dès que j'ai un petit peu de temps, pour vérifier ça, pour voir combien ont remplacé de natifs. Troisième chose, c'est qu'au final, c'est la première fois que l'origine écrase l'idéologie. Avec c'est plus le clivage gauche-droite qui compte, ou extrême-gauche, extrême-droite, c'est quelle va être l'origine la plus forte, la diaspora la plus forte, et est-ce que je vais rassembler suffisamment d'additions de diaspora pour prendre le pouvoir. Et donc on a même des listes je dirais peut-être pas divers droite, mais neutre, qui arrive à battre des listes de gauche qui sont représentées par quelqu'un, par un Français de souche. Donc ça aussi,
c'est noir. Je sais bientôt.
C'est intéressant. Autre chose que je relève, alors c'est la victoire à Carcassonne. Je trouve cette ville absolument magnifique. Pour moi, c'est le rêve de mon enfance, Carcassonne. Je dessinais Carcassonne, le château. Voilà. Donc j'espère qu'on délocalisera le ministère de l'Intérieur à Carcassonne, dans les remparts. Là, je trouve ça vraiment génial. La victoire originale du Cap d'Agde, une sociologie assez marrante, des très très grosses villes.
C'est marrant, c'est joliment dit.
Bah voilà, c'est Patrick Sébastien, hein, voilà. Des très très grosses villes, hein, je pense notamment à La Seyne-sur-Mer. Je ne sais pas que La Seyne-sur-Mer avait autant d'habitants, donc 65 000 je crois. Donc c'est énorme en fait. Donc même si Toulon n'est pas tombé, il y a des très très grosses villes qui sont tombées. Estrosi, la mort d'Estrosi, c'est quand même génial. Estrosi qui s'est... Alors en fait, hein, moi vraiment mon analyse, c'est que Estrosi a joué, vous savez, depuis le 7 octobre, il avait pavoisé sa mairie de drapeaux israéliens, ça devenait complètement délirant. Et en fait, il a joué, c'est le multiclientélisme qui est piégé par son clientélisme. Il a fait le grand écart entre une mairie pro-israélienne et en même temps, il comptait
une
sur le vote des frères musulmans. Il leur prêtait, des salles, il était condamné pour ça. Il allait à l'Aïd faire des discours dans les salles. Et en fait, malheureusement, à l'heure des élections, ils se sont abstenus. Ils l'ont refoulé d'ailleurs de la prière de l'Aïd de vendredi, hein, qui a été décisive. On a vu, j'ai fait sortir plein de vidéos de plein de maires de toutes étiquettes qui sont allées à cette prière de l'Aïd. Et donc, en fait, il a été puni par son prisme 7 octobre, incompatible avec son électorat
Et il a essayé de changer de braquet à la toute fin.
Il a essayé de changer
avec quand même le
l'affaire de la tête de cochon. Ce truc, quand même, dès le départ, hein, enfin, je ne sais pas vous, moi j'avais compris que c'était un peu bizarre quand même. Hein. C'était,
ces voilà. trucs-là sont bizarres.
C'était
on
une barbouzerie.
On est habitué à ce genre de barbouzerie. Voilà. C'est pas la première, c'est pas la dernière.
Donc, honnêtement, cette fin de règne voit un film était absolument exceptionnel. Et puis enfin, beaucoup plus classiquement, le renforcement de la polarisation géographique avec de plus en plus cette partition du territoire. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que le RN a moins gagné médiatiquement. Hier, je regardais la télévision, il disait « Ah oui, quand même, vous avez quasiment perdu, vous êtes déçus, vous avez perdu vos grandes villes et tout. » Mais pas du tout. Je pense que le RN a fait énormément de victoires en villes moyennes et que vu que l'attention médiatique est sur les métropoles uniquement, on a l'impression que le RN a perdu. Pas du tout, on est sur une polarisation, une énorme montée du vote RN dans ces villes moyennes, donc petites métropoles de province. Ça passe parfois, parce qu'une ville de 60 000 habitants, c'est quand même 50 000, 60 000. Je pense que la victoire du RN n'est pas spectaculaire en termes de perception, mais qu'elle est en fait
sous-estimée. Pratiquement, oui. Vous allez peut-être dire la même chose que moi sur les petites communes.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'autant qu'ils ne présentaient pas énormément de candidats, s'ils avaient de listes, s'ils avaient présenté
600,
plus.
Je crois.
Oui, voilà. Mais donc 600, lorsqu'on est sur
35 000 communes,
petite ville, c'est en réalité c'est assez peu.
Il y en avait 550 en 95, donc ça relativise en termes de en termes de présentation. C'était pas
faut jamais faire le malin avec les chiffres que j'aurais dit, je me rappelle les heures.
Les plus
oui, mais nous on avait 80 députés. Nous on avait.
Non.
On faisait des meetings au stade Vélodrome, attention.
Non, mais les listes, je pense qu'effectivement le résultat électoral est bon, mais qu'il aurait pu être meilleur s'il y avait eu davantage de listes.
Alors moi,
voilà,
j'ai
ça,
une analyse.
C'est un autre problème.
Ah oui. J'ai un point de vue là-dessus qui est mon analyse du vote souterrain. Non pas le vote caché comme l'imam uranien, mais le vote caché. Des petites communes, des micro-communes, des villages où on a fait une seule liste et où les gens sont en gros classés divers droite, peut-être parce qu'ils sont chasseurs, peut-être parce qu'ils n'ont pas de candidat, de drapeau RN à mettre en avant, mais où au fond, peut-être qu'à la présidentielle, ils voteront RN parce que de toute manière, ils votent RN. Voilà, je pense que
ça,
Xavier,
ça se verra au sénatorial.
Je vous ai honteusement coupé le sifflet.
Non, mais c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a un sentiment qui croit aussi. Dans la population de cette France dite périphérique, c'est que à travers le vote RN, elle peut revenir au centre du jeu. C'est-à-dire, la France périphérique, à mon sens, va revenir au centre du jeu politique. Et le ressenti que j'ai, c'est au doigt mouillé, c'est que il y a quand même eu aussi une forme de choc entre les deux tours. C'est-à-dire, les images de la victoire LFI à Saint-Denis, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit oh là, faut mettre un coup d'arrêt à ce processus. Dès maintenant, et Dieu sait s'il est avancé. Une autre chose qui joue, à mon avis, c'est qu'on parle beaucoup de des zones à forte concentration, mais tout le monde a bien conscience désormais que ces zones débordent et que la répartition sur l'ensemble du territoire est programmée. Et ça, à mon avis, ça explique beaucoup de basculement ou de montée du vote RN dans des campagnes qui se croyaient un peu égoïstement à l'abri, mais qui savent désormais qu'elles pourront être confrontées au même problème à brève échéance s'ils ne mettent pas un coup d'arrêt à ce processus et s'ils ne reprennent pas la main.
Cas très emblématique, hein, c'est Montargis qui avait été ravagé par les dernières émeutes et qui vient de tomber. Et c'est vraiment un symbole.
Et il y a tout tombé
de quel côté?
RN.
RN, RN.
Ah, bien.
Et je suis un journaliste neutre et objectif. Je ne me réjouis pas.
Il y a une autre petite ville qui est significative, à Belhavre, le maire sortant qui ne s'était pas opposé au foyer de migrants s'est fait balayer. Voilà. Alors, je ne sais pas trop par qui, on va dire.
Il y a une petite commune. Par la liste qui lui reprochait ça principalement.
Voilà. Ouais.
Il y a une grande peur qui court les campagnes, c'est la peur de l'installation d'un centre de migrants.
Oui.
Et ça joue énormément sur le vote municipal, c'est-à-dire que les gens se disent, il nous faut un maire qui s'opposera à ça.
Les éoliennes et les migrants. Voilà. Oui. La peur de la France périphérique.
Parfait, que les gens sont bien.
Richard de Cèze. Alors, moi, je voulais d'abord citer un compte Twitter, Bamako Soldat. Six maires noirs issus de banlieues à la tête de ville qui les ont vus grandir. Pas un hasard, pas un symbole isolé, une réalité qui s'impose. Ceux qu'on pensait loin des décisions sont désormais au cœur. Discrètement, le paysage change et ce n'est que le début. Bah, ça aurait pu être signé Renaud Camus, mais c'est Bamako Soldat qui...
Tweet cité par Rima Hassan qui dit « une victoire des nôtres ». Donc voilà. Rima Hassan se considère comme des nôtres. Donc je ne sais pas qui sont les nôtres, qui sont les autres. Peut-être que nous sommes les autres.
Mais Rima Hassan, c'est celle qui est la première à verbaliser la nécessité que les dirigeants et les fistes deviennent... cesse d'être blanc.
Elle a dit les yeux dans les yeux à Mathilde Panot. C'est une vidéo
incroyable. Vidéo est extraordinaire. Ouais.
Elle lui dit les yeux dans les yeux.
Il y a Mathilde Panot, il y a Manon Aubry aussi.
Ils vont remplacer, ils vont le faire. Là. Ils ont compris en plus que ça cartonnait. Ils vont se débarrasser de tout.
Et Delogule avait déjà appelé de ses voeux. Alors lui, il est maghrébin, mais il avait souhaité.
Je ne crois pas qu'il soit maghrébin. Croire qu'il est maghrébin.
Il est fils de pieds noirs.
Il est pieds noirs.
D'un point de vue électoral, mais il est plutôt d'origine espagnol
aussi, alors.
Et il joue un petit peu sur l'ambiguïté pour électoral.
Il est appelé à foutre le camp aussi de son propre parti. S'il suit ses principes.
Il pense pas parce qu'il justement il joue cette proximité là.
Si vous me permettez de taper sur la droite.
Oh, bon, écoutez,
non, parce que c'est pour moi l'un des enseignements aussi de cette élection. C'est la manière dont la droite et l'air est visiblement en train de se partager entre ceux qui ont décidé des alliances dès le premier tour, effectivement. Sous le couvert d'un sans-étiquette ou d'un divers droite, et qui sont passés sous les fourches codines du parti, et ceux qui ont décidé, au contraire, de se maintenir courageusement, et qui ont du coup poussé les gens du Rassemblement national à s'énerver terriblement, comme Julien Sanchez qui explique « on a la droite la plus bête du monde ». Et ça veut dire qu'en fait, que le Rassemblement national, brusquement, décide qu'il est à droite.
Oui.
Jordan Bardella a décidé qu'il était à droite. Julien Sanchez a décidé qu'il était à droite. Plusieurs membres du Rassemblement national nous expliquent qu'ils sont à droite, alors que Marine Le Pen continue à expliquer qu'on n'est ni à droite ni à gauche.
Elle vient de retweeter que RN n'était ni à droite ni à gauche, alors que pendant les municipales, ce n'est pas ce qui s'est passé.
Et c'est,
le
surtout,
clivage droite-gauche, il y a eu deux clivages. Le clivage droite-gauche, effectivement, comme l'a dit Damien, le clivage ethnique. C'est les deux clivages dominants des municipales.
Et ce clivage droite-gauche, une partie des membres du Rassemblement national, et pas des moindres, sont en train d'assumer que, normalement, on est à droite quand on est au Rassemblement national. Et de même que les LR continuent à nous expliquer, comme Gérard Larcher ou Geoffroy Didier, qui n'ont rien à voir avec le RN, mais que ça paraît être une posture pas très intelligente dans la perspective des présidentielles, eh bien, une partie du RN continue à nous expliquer qu'il est au-dessus de ce clivage-là, alors que ce clivage est au contraire en train de prouver à quel point il est efficace.
Deux autres enseignements que je note. Hein,
J'espérais que tout le monde allait m'applaudir.
Mais
tant pis.
On a applaudi,
Ok, c'est pas moi l'invité ce soir.
Nous avons hoché de la tête de haut en bas pendant toute ton intervention.
Ok, merci.
J'aurais
dû te regarder, Xavier.
C'est quand même l'échec du macronisme municipal qui est une nouvelle fois renouvelé. Et deuxième chose,
à Paris notamment.
À Paris, catastrophique. C'est le courage, il faut le dire, de Bellamy et Retailleau qui ont désavoué Estrosi au profit de Ciotti, Ah, Jean-Yves, ouais, vous allez dire que c'est pas assez, hein. Mais c'est, ils l'ont fait. Oui, le reste du parti ne l'a pas fait. Ils se sont fait taper sur les doigts et Bellamy continue. Donc c'est quand même une première étape où on voit une petite brèche dans
Une sciotisation de Bellamy.
Bah oui, mais
c'est très bien.
Est-ce que ça n'est pas néanmoins la seule façon pour eux de s'en sortir? Parce que, en fait, LR, c'est ce que disait déjà Thierry Mariani quand il a quitté le parti, il aurait même pu le dire avant. En fait, c'est devenu inconciliable. C'est-à-dire, on a objectivement une tendance complètement de centre-droit qui est naturellement vouée à être auxiliaire du macronisme.
Et s'alliera avec la gauche en 2027, final.
Et une autre tendance qui a, elle, naturellement vocation à s'allier avec un peu plus à droite qu'elle. En gros, RPR, UDF, pour ceux à qui ça dit encore quelque chose, même si l'UDF était parfois extrêmement à droite. D'ailleurs, je crois que vous venez de l'UDF, non?
Oui, absolument.
Oui, ben voilà, bon, on voit où ça mène. Monsieur.
Nous ne sommes pas faits du même bois.
Mais en gros, je pense que LR est un parti factice, pratiquement. C'est-à-dire qui agglomère des divergences, en fait. C'est l'agglomération de divergences inconciliables. C'est fini.
Alors, les électeurs ne s'y sont pas trompés, puisqu'ils ont, à quelques exceptions près, plutôt bien voté pour le meilleur candidat de droite qui était placé. Hein. On voit qu'il y a une union de la droite dans les urnes. Hein. Ouais. Oui, alors Clermont-Ferrand, le problème c'est que vendredi soir, j'ai vu que le candidat LR qui vient de gagner était passé à la mosquée, donc j'étais pas très content. Mais je suis ravi effectivement que cet antifa d'Olivier Bianchi qui gouvernait la ville, ville socialiste depuis 50 ans, est enfin tombé. Voilà, pour ma ville natale, ça me fait très plaisir.
Vous êtes de là-bas ?
Oui, un petit peu.
Mais c'est vrai qu'on a des plaisirs comme le fait que Bérou soit fait jeter. Quoi.
Ah, c'est vrai.
Carl Olive est tombé. Ah, oui, vous devez bien connaître.
Je ne l'apprécie pas spécialement. Oui. Je ne le connais pas spécialement.
Bien sûr, mais vous connaissez.
Oui, je connais tout à fait l'environnement. Non, mais il n'était pas maire sortant.
Non.
Mais
il avait été maire jusqu'en 2014.
Oui, il a essayé de reprendre une mairie qu'il avait eue.
Il avait perdu.
Il y a une satisfaction quand même. C'est la victoire d'Alexandra Masson à Menton.
Oui. Mais oui.
Ça, franchement, ça m'a fait un immense plaisir parce que j'ai trouvé que, Louis Sarkozy avait été parachuté là-bas de manière absolument incroyable et surtout qu'il avait tenu un discours de post-premier tour d'un ridicule achevé en expliquant que les électeurs avaient donné un geste fort en expliquant que s'il y avait une chose qu'ils ne voulaient pas, c'était du RN.
Ce qu'il voulait dire, c'est que par rapport aux autres villes de la Côte d'Azur, effectivement à Menton, la droite s'en était beaucoup mieux sortie. Mais
c'est Alexandra Masson.
Une semaine plus tard, c'est une ville RN.
Dans l'addition des voix de droite, moi je pensais qu'elle allait perdre. Je dis franchement.
Oui, moi j'ai eu peur aussi.
Elle s'en sort bien, et notamment parce que l'alliance entre le fils Sarkozy et Sandra Père, qui est la mentonnaise qui va bientôt probablement être condamnée pour inéligibilité, donc il espérait reprendre derrière la mairie. Cette alliance a pas du tout marché. Je sais pas si vous avez vu passer les extraits du débat où Sandra Père, qui est devenue la tête de liste, taper sur son rallié limite pendant le débat, donc ça n'a pas du tout fonctionné. Alexandra Masson en a profité. Moi j'étais candidat à Menton aux législatives en 2022, donc je connais un petit peu et je suis ravi effectivement que cette frontière, les frontières se tiennent à Menton, ça commence là-bas, ça passe dès là-bas, sera désormais au maire du RN.
Oui. Et en plus Alexandra Masson est une excellente candidate, donc c'est vraiment réjouissant. Quelque chose qui n'a pas fonctionné également, c'est les accords LFI gauche qui ont plutôt échoué dans leur majorité, et alors surtout avec le cas absolument magnifique, je trouve, si on reste dans la réjouissance malveillante, de Tulle, la ville de François Hollande. Ce François Hollande qui avait quand même appelé à faire une séparation nette avec LFI.
Oui, ça passe à droite, Tulle.
Oui, qui ensuite a dit l'union, en appelant à s'allier avec LFI pour empêcher la droite de gagner. Et là, on se dit, mais alors. Ça, bravo. Et dans plusieurs autres villes, en fait, ce sont des stratégies perdantes et les électeurs n'ont pas suivi soit les fusions techniques, soit les
ça appels. Dépend. Ça dépend des villes.
Alors, ça dépend. Oui, mais dans la majorité, ça n'a pas fonctionné.
Honnêtement, d'ailleurs, j'ai trouvé que les fusions techniques, c'était une bonne utilisation du code électoral, puisque ça jouait à la fois du phénomène majoritaire et du phénomène proportionnaliste. Et je trouve que LR et le RN auraient dû intelligemment faire des fusions techniques. Ils ne mettaient pas d'accord sur un programme, mais ils fusionnaient, ils laissaient la minorité représentée. Là, la gauche a été plus intelligente que la droite.
Alors moi, j'ai l'exemple de Tours, où Nikolic,
pour le RN a fait un peu plus de 11%, et le candidat de droite, qui est vraiment du centre-droit, a refusé toute forme d'alliance, de compromis, blablabla. Résultat, il a perdu, mais il a perdu à 1200 voix. 1200 voix pour une ville de 300 000 habitants, c'est pas des masses. Et en fait, s'il avait accepté cette fusion technique, ou ce retrait, ou je ne sais quoi, c'était possiblement gagné.
Mais il aurait pu perdre des voix au centre aussi, peut-être. Faut voir exactement.
Peut-être, en tout cas, là, il a perdu. Et hier, donc, les écolo-gauchistes qui avaient fait donc une alliance, enfin cette fusion avec LFI, chantaient des chants antifa dans la mairie de Tours. J'avoue que je l'ai un peu mal
pris. Écolos, on n'en a pas parlé, les écolos, ils ont perdu, à part Lyon.
Et Tours,
oui, ils sont quand même bien balayés.
oui, ils sont tombés à Poitiers aussi.
Ouais. Ah, c'est bien.
Voilà.
Mais Charles Martel ne leur a pas fait de cadeau, il faut bien le dire.
Les délires des bobos en général et des écolos en particulier dans les métropoles sont un merveilleux agent électoral pour la droite dans les campagnes. Hein. C'est-à-dire que les métropoles sont devenues quand même dans des repoussoirs pour d'énormes portions de la population. Et c'est un clivage, à mon avis, il y a le clivage ethnique, effectivement, qui doit être souligné. Il y a aussi le clivage droite-gauche qui ressurgit, mais qui se mêle à un clivage territorial et de, j'allais dire, presque anthropologique. Voilà.
Alors, j'en profite.
Dans les campagnes, on conserve une anthropologie différente des mutations qui sont promues.
Je vous coupe la parole, Xavier, parce qu'il nous reste que 2 minutes. Donc peut-être 1 minute chacun, si on arrive à gratter un peu. Est-ce que vous pensez que le résultat de ce second tour peut être une projection à peu près fiable pour 2027, puisqu'on est quand même qu'à un an de l'autre élection. D'habitude, si on est à plusieurs années, c'est pas représentatif. Mais là, à un an seulement, est-ce qu'il y a des lignes de force?
Hormis, pour moi, l'enseignement que LFI peut mobiliser l'électorat immigré communautarisé par cette stratégie Gaza, je trouve qu'il y a trop d'enseignements, il y a trop de disparités dans le scrutin pour en tirer des grandes leçons sur 2027. J'en vois assez peu, quoi.
Oui, moi, je partage la même prudence, oui.
Ouais. Et alors, le fait que, justement, des Bellamy, des Retailleau commencent à comprendre que leur intérêt n'est pas forcément de toujours se couper de la victoire.
Il faudrait qu'ils apprennent que le Rubicon n'est pas un fleuve ou pêcher à la ligne.
Oui. Et même s'il n'est pas très profond. Mais
oui, pourtant, il est très facile à traverser. Mais bon.
Il est à Menton, du coup, le Rubicon, non?
Ah ben, je ne sais pas.
Excellent titre pour votre prochain ouvrage.
Je pense que c'est la rivière entre Menton et la ville d'en face.
Hein. Richard vient de vous donner un titre très bon.
Il doit y en avoir un autre Rubicon qui est à l'entrée de Rome. Celui que César a franchi.
Je crois qu'il a franchi en partant des Gaules.
Oui, mais il arrivait des Gaules, mais... Oui.
Qui peut nous éclairer, là,
géographe, en tout cas. Et est-ce que ce vote souterrain, ce vote caché, donc, vous semble potentiellement intéressant pour 2027
La France périphérique, il est pas caché, c'est l'électorat principal majoritaire du Rassemblement national.
Mais qui n'est pas comptabilisé dans ces
municipales. Il a été invisible parce que sans étiquette sur les villages de moins de 3 000 habitants, 5 000 habitants. Oui, il a été invisibilisé, effectivement, mais il est là. Ouais.
Mais il est là. Eh bien écoutez, sur ces forts propos... Non,
c'est dans la plaine du Pau, le Rubicon, je suis désolé.
Ah, raté. Bon, il vient nous gâcher la chute. Lui.
Ah bah, on avait tort que les deux, alors. Parce voilà.
Mais c'était bien entre la Gaule cisalpine et la Gaule transalpine.
Eh bien, c'est la leçon d'histoire du jour et de géographie. Voilà. Sur ces propos...
Toujours des histoires
propos.
De 6 et de trans.
Merci. Chers auditeurs, au revoir, à la semaine prochaine et à demain avec Richard Decesse qui reprend le crachoir.
Ça suffit maintenant. Au revoir.